Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, bien bonjour. Eh bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Ojol. Bonjour.
Bonjour.
Pour son livre, son dernier livre, L'Orange était sanguine, publié aux éditions du Noir au Sud, Cairn. Hein,
c'est ça, exactement.
Je vous avais déjà reçu pour plusieurs de vos livres, d'ailleurs. Certains sont tous des... Enfin, tous, pas tous, parce que vous commencez par la poésie, d'ailleurs.
J'ai commencé par la poésie, hein. Après j'ai fait du terroir, et puis maintenant, étant un ancien fonctionnaire de police, donc hein. c'est le roman policier qui prime un petit peu, effectivement.
Voilà. Je vous avais reçu pour Le Mort et dans le Pré, Le Seigneur est avec vous, avec le Seigneur, avec un
S.A.I.
La Femme Parfaite, Être Née, enfin plusieurs, beaucoup de livres. Et aussi des affaires également non résolues.
Oui. Et les grandes affaires criminelles d'Occitanie.
Voilà. Alors vous étiez venu plusieurs fois. Hein. Ouais, donc là, aujourd'hui, donc, vous avez écrit un livre, L'Orage des Sanguins, donc qui était un roman policier.
C'est ça.
Donc comment vous est venue l'idée d'écrire, pas un roman policier, parce que vous en avez l'habitude d'en écrire, mais... Le thème, disons, on en parlera, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, mais ça faisait venu comme ça. Comment germe l'idée d'écrire
La thématique m'est venue. Je suis parti de Toulouse, et puis j'ai extrapolé un petit peu ensuite vers la Catalogne, dans le milieu des migrants, de la prostitution. Et donc j'ai voulu. Moi, ce que je veux dans un polar, c'est que par-delà l'intrigue, les gens, les lecteurs, arrivent à apprendre quelque chose, à percevoir certains milieux. Voilà. Et donc, l'opacité de certains milieux. Et c'est ce que j'essaye toujours, qu'on ressorte de la lecture d'un roman policier en ayant appris quelque chose.
Voilà, c'est ça. Parce que vous décrivez, d'ailleurs, on va y revenir, vous décrivez certains milieux.
Voilà,
c'est
certains milieux. On en reparlera tout à l'heure. Mais oui. Il y a mon héros, qui est un fonctionnaire de police, qui va à la Jonquera, au lieu des cigarettes, la contrebande et d'autres choses. Et donc, il y va pour les besoins de l'enquête et nous en parlerons tout à l'heure.
Et alors, l'enquête... d'abord, l'enquête est menée par ce fameux Bastide.
Voilà, c'est mon personnage récurrent.
Assisté du nommé Audrey.
Voilà, c'est ça, d'une colle. Voilà.
D'abord, en France, parce qu'après, nous verrons qu'ils vont collaborer avec la police espagnole.
Parce qu'il a ce qu'on appelle, comme ça part un petit peu donc en Catalogne, mais donc en Espagne. pardon. Il a ce qu'on appelle une commission rogatoire internationale qu'il propulse là-bas, en Espagne. Et donc, il retrouve ensuite une collègue française qui est chargée de mission à Barcelone.
D'accord. Alors, donc, l'affaire débarque à Toulouse, sur la place Arnaud Bernard.
C'est ça.
À la découverte de...
Arnaud Bernard, un corps, une petite rue, la rue des Quêteurs, une toute petite rue du quartier Arnaud Bernard, que je connais pas mal, et puis donc c'est manifestement un homicide, hein, puisque la personne est l'homme est tué d'une balle en pleine tête, et on retrouve dans sa poche un petit peu de drogue, et puis également des scories d'orange, d'où le titre aussi, L'Orange était sanguine. Et d'où les vêtements, sans trop déflorer, les vêtements lors de l'autopsie dévoilent que ce sont des vêtements de marque espagnole. La diffusion auprès des autorités espagnoles amène à identifier bientôt la personne en question.
Et alors, cette personne... qui s'appelle Habib Ghassem. Il faut une enquête pour savoir d'où il vient.
C'est ça, ils arrivent à
déterminer
que c'est...
Au départ, ils ne savaient pas de qui il s'agit.
Non, il est totalement inconnu des services, et a priori, donc, il s'avère que c'est un Marocain qui est arrivé de son pays. Mais on ne sait pas trop pourquoi, et donc il est arrivé dans une plantation d'oranges et de mandarines de Catalogne. Donc le lien étant fait évidemment avec l'au-delà des Pyrénées, le collègue part là-bas en mission.
Et alors donc là, c'est là qu'ils partent en mission et qu'ils vont collaborer avec la police espagnole.
Exactement.
Alors comment se passe cette collaboration? Elle se passe naturellement? Il y a des problèmes entre eux ou au contraire
Ça se passe bien avec ce qu'on appelle les Mossos, qui est la police nationale. Parce qu'après, il y a la Guardia Civile aussi, que tout le monde connaît, mais qui est davantage la gendarmerie. Hein, c'est l'équivalent des gendarmes chez nous. Et là, donc, ils travaillent avec les Mossos qui sont liés, enfin, qui sont... sont liés donc à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Et donc, ils travaillent pour essayer de voir quelles sont les orientations à donner à l'enquête. Peut-être dans le domaine, évidemment, de la drogue, peut-être aussi dans celui des migrants. Voilà, il y a plusieurs, il y a tout un éventail de possibilités qui s'offrent à l'enquête.
Et alors, donc, l'enquête va les mener au Pertus, à Jonquera, voilà, d'abord, dans un premier temps.
Hein. C'est ça. En fait, l'enquête va les mener à la Jonquera, où, évidemment, au lieu, donc, comme je disais précédemment, là, de divers trafics, de drogue, évidemment, et puis de la prostitution. Et là, le fonctionnaire est obligé d'aller, est tenu d'aller dans un lieu de perdition, quoi, dans ce lieu, dans cette discothèque, pour essayer de rencontrer une maghrébine, voilà, qui serait liée à Habib Ghassem. Voilà.
Et alors, voilà, donc ensuite, parallèlement à cette découverte, il intervient, vous faites intervenir un autre personnage, José Serrano, qui est journaliste en Espagne.
C'est ça, journaliste Espagne, et qui est lui aussi est retrouvé assassiné, et qui se trouve être le beau-frère de celui qui tient l'orangerie. Donc le lien manifeste avec l'Espagne. Il y a des similitudes dans le mode dans le mode opératoire au niveau de son assassinat. Donc les deux affaires étant liées, le lien il est évident avec l'orangerie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette orangerie? Est-ce que ce n'est jamais qu'une façade pour un trafic de cam? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec le Maroc ou l'Algérie pour un trafic de migrants? C'est pas impossible aussi. Est-ce qu'il y a un lien avec la... Voilà. C'est l'enquête. Et puis, comme on dit dans une enquête, on ouvre plusieurs pistes. Et puis les portes se ferment petit à petit. Voilà. Pour... laisser ensuite celle de la vérité, mais qui arrive tout à fait à la fin.
Voilà. Par contre, on découvre donc ce journaliste, c'est le frère donc du...
C'est ça, exactement.
De cette le ferme, beau,
le beau,
cette
voilà,
propriétaire
le beau-frère.
Sur maraîchère.
C'est ça. Hein,
c'est ça. Hein.
C'est le beau-frère, et ce beau-frère est quand même un peu atypique, hein, il est un peu lourd. Bosseur, c'est un bosseur, mais il est lourd, il est granitique, disons, et puis il a été aussi condamné une ou deux fois pour les faux papiers. Enfin, il ne fait pas de papiers aux migrants. Vous savez, les migrants, ils arrivent un jour, il leur prend pas la main. Donc, dans la mesure où ils sont là moins de 15 jours chez lui, il ne fait pas de papiers. C'est vrai que parfois, il reste à l'avantage, mais il n'en fait pas non plus. Donc, il est quand même pas net au niveau administratif. Donc, est-ce que cette malhonnêteté potentielle est liée à une autre forme de criminalité que celle des migrants? Donc, effectivement, oui. Et il se trouve que l'enquête se focalise de plus en plus vers ce personnage.
Ce personnage. Et alors donc, vous faites intervenir également une troisième personne qui est au centre aussi de l'affaire, c'est celle que vous appelez Amira.
C'est ça.
Amira.
Voilà.
Alors Amira...
Ben c'est une jeune fille qui elle aussi arrive du Maroc. Qui elle aussi est migrante et qui se retrouve être la sœur d'Habib, voilà, de Ghassem. Voilà. Et donc, Habib Ghassem cherchait sa sœur, pourquoi la cherchait-il? Peut-être parce que celle-ci voulait aller faire sa vie en Espagne. Peut-être était-elle liée à la Jonquera avec le milieu de la prostitution. Donc l'enquête digresse vers ce milieu-là. Mais voilà.
Alors donc vous dépeignez le milieu 1 du proxénétisme.
C'est ça, du proxénétisme un petit peu.
Également le milieu aussi de la drogue aussi.
De la drogue aussi.
Et également, bien sûr, vous avez en parlé.
Des migrants.
Le milieu d'esclavage.
Oui, cette forme d'esclavage.
Il y a plusieurs pistes qui...
Il y a plusieurs pistes.
Parce qu'on ne sait pas du tout finalement pourquoi ces deux morts sont liées, pour quelles raisons.
C'est ça. Tous ces pauvres R qui partent du Maroc ou d'ailleurs et qui arrivent en Espagne pour... pour trimer, qui sont payés 3 francs 6 sous, qui n'ont pas d'eau pour se laver, qui sont obligés de se laver avec du Coca-Cola, parce que le Coca-Cola en Espagne coûte moins cher que l'eau, et que l'eau, ça sert à irriguer, donc c'est beaucoup plus important pour les plantes que pour eux-mêmes.
Bien sûr. Voilà.
Et donc, il y a toute cette interconnexion avec le milieu des migrants et tout cet esclavage. Peut-être également un esclavage sexuel par rapport à Mira. Enfin, rien. Vous savez, au départ, une enquête, vous savez, c'est une nébulosité. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis, on élude. Et jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une ou deux pistes à explorer.
Et alors, cette Amira, qu'est-ce qu'elle faisait exactement ?
En fait, elle est allée effectivement à la Jonquera un petit peu, mais Amira se cache. Mmh. Amira, en fait, elle se cache, elle a fui son pays, et alors peut-être pour une nouvelle vie, mais manifestement, elle se cache. Mais de qui ? De qui se cache-t-elle ? Est-ce que c'est d'un réseau de migrants auxquels elle n'aurait pas payé, d'un réseau de proxénètes bulgares ? On ne le sait pas. C'est pour ça que l'enquête va permettre de le savoir, mais après pas mal de pérégrinations de mon personnage.
Voilà, il y a ensuite une troisième personne aussi que vous faites intervenir. C'est la femme du propriétaire maraîcher.
C'est ça. Voilà. Il y a la psychiatre. L'épouse du maraîcher, qui a un rôle certes mineur, voilà, mais qui apparaît un petit peu en filigrane et qui apparaît régulièrement au niveau de plusieurs chapitres du livre. Et puis l'enquête, après, digresse un petit peu, rebondit plutôt en milieu du Pays Basque, voilà, au Pays Basque, un petit peu également en région marseillaise. En fait, c'est une quête incessante de mon fonctionnaire à la recherche donc du personnage principal, voilà.
Et alors donc là, puisque vous avez eu une formation de policier, vous nous expliquez exactement comment se déroule un peu une enquête finalement policière, c'est-à-dire avec éventuellement les immersions, comme vous l'avez
dit tout
à l'heure à Jonquera, les immersions, des filatures, des interrogatoires, etc.
Et donc, bon,
toute la panoplie de...
Avec mon enquêteur qui est un fonctionnaire, je dirais propre sur lui, c'est-à-dire c'est pas du tout un électron libre, il boit pas, il se drogue pas. Il est carré, il tient au courant sa hiérarchie. Dans le cadre de cette enquête-là, j'ai essayé d'être au plus près de la réalité. Voilà, donc c'est pas un vent-à-guerre, il n'y a pas un coup de calibre toutes les deux pages, du sang qui dégouline. Non, c'est l'enquête qui étudie plusieurs possibilités, plusieurs éventualités. Et puis ensuite, ben voilà, ça, petit à petit, il arrive à corroder certains soupçons et à éclaircir un petit peu, à éclairer l'enquête.
Oui, ce que j'apprécie surtout de ce livre, c'est la description très détaillée des lieux. On sent que vous avez également cette formation de poète, même, parce que vous avez des...
Voilà, il faut...
souvent des lyriques.
Il faut essayer... Je fais aller à mon personnage, donc toujours en Catalogne, mais française cette fois-ci, dans un petit village qui s'appelle Périos, qui est un village, mais abandonné. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 3 habitants.
Dans les Corbières.
Dans les Corbières, donc oui, en Catalogne. Et là, c'est un village perdu. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Fernandel et Oran de Mazis qui s'appelait Regain, où on voit Fernandel avec son carillon de rémouleur monté dans ce petit village perdu. C'est un petit peu ça, quoi. Et c'est un village qui a été abandonné. Et là, manifestement, il y a un de mes personnages qui va s'y réfugier. Et donc, il est suivi par mon enquêteur. Mais ça permet effectivement de découvrir ce village où tout est blanc, où il n'y a plus rien. 2 maisons un petit peu qui commencent à être rénovées. Un Christ à la Corcovado qui est sur sa colline, les bras écartés. Alors, c'est c'est vraiment symbolique un petit peu, oui, c'est très mystique. Voilà, le lieu est mystique, et c'est vrai que je me suis efforcé de le décrire au mieux.
Gallineta di Caprou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment, no tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita. La gallina ha dit que no, visca la revolució. A canvi d'algun gra de blat m'heu tret la força de volar, però us juro, s'ha acabat dintre endavant tot una vida. I no pateixo pel destí, un cop lliurada del botxí, no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entengui amb les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Els gats que m'hi hauran de dormir els triaré sants i valents, que n'estic farta d'insolvents que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de bleda no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment.
La gallina ha dit que no, visca la revolució. La gallina ha dit que no.
Bien. Mais je crois que vous allez nous lire un de vos extraits. Hein.
Alors oui, donc c'est un extrait ben, qui précisément se passe à la Jonquera. Mm-hmm. Donc lorsque mon fonctionnaire se retrouve dans cette discothèque qui en est à moitié une. Donc je continue mon petit tour du propriétaire, soucieux de jouer au mieux mon rôle de baiseur compulsif. Je regarde autour de moi, repense à tout ce que m'avait raconté mon pote de Mont, ancien de la BRP, lequel en son temps avait connu les dernières braises de Madame Claude. Pas pareil, tout change ma bonne dame. Ici, pas de demoiselle haut de gamme, bichonnée, coiffée, calibrée à souhait, étriée sur le volet de la demi-mondaine de classe. Ici, c'est du tout venant, de la bitumeuse AOC, de la gigoteuse de base, fardée de vulgarité et poudrée de toute autre chose. Au fond de la salle, un spectacle plein d'originalité vient de commencer. Deux filles en string montent, descendent, s'enroulent lascivement autour de deux barres de striptease. Je me rends compte qu'il y en a pour tous les âges, pour toutes les couleurs et pour toutes les proportions. Je remarque aussi la porte par laquelle s'engouffrent employés et clients. Proxénétisme hôtelier ? Mon Dieu, non. Rien que des relations chaleureuses et saines entre adultes consentants, où l'honnête tenancier se dédommage sur les boissons et la location des chambres. Je poursuis. Deux grandes noires m'agrippent à leur tour et manquent de m'étouffer sur leur poitrine généreuse. Difficile de m'en défaire. Sans être habillé pareil, elles sont tout aussi collantes. C'est là que j'en aperçois une, petite, mignonnette, fine, harnachée d'un short de cuir rouge et des cuisses gainées de barésille. Marocaine, algérienne ou tunisienne ? Peut-être. Pas turque en tout cas, danoise non plus. Nos regards se croisent. Je m'approche.
Merci. Oui, alors on pourra en revenir donc à notre enquête. Comment se déroule justement ces deux enquêtes ? Comment se répartissent les rôles entre la police espagnole d'un côté et la police française de l'autre ? Comment se passe-t-il
Ce qui se passe, c'est que dans tous les pays, notamment en Espagne, il y a ce qu'on appelle un officier de liaison. C'est-à-dire que lorsqu'un fonctionnaire, alors le mien est toulousain, mais de Bordeaux, de Toulouse, qu'importe, se rend en Espagne, il y a cet officier de liaison qui est chargé de faire l'assistance. Parce que bon, là, mon fonctionnaire est d'origine catalane, donc il comprend un petit peu, il maîtrise un petit peu la langue, mais donc, dans la mesure où il ne la maîtrise pas, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse le relais. Donc tant au niveau de la langue, des lieux que de l'infrastructure, c'est-à-dire, bon, il part avec son véhicule et son arme, mais c'est bien d'avoir un autre véhicule local aussi, et que des procédures. Il y a des choses qu'on peut faire en France, que la législation permet de faire, qu'on ne peut pas faire en Espagne. Donc tout ça, c'est pour faire la corrélation entre les deux polices, quoi. Les deux polices et les deux justices aussi. Donc il part en Espagne, il retrouve donc sa collègue au niveau du Pertus, donc à la frontière, et puis ensuite ben, il se rend à Barcelone.
Et au niveau du journaliste, comment se passe aussi comment remonte-t-il cette piste? Comment arrive-t-il à comprendre pourquoi ce journaliste est impliqué dans cette...
Alors, le problème du journaliste, c'est qu'en tant que bon journaliste, lui aussi...
Il faisait une enquête, comme
un service de police, voilà. Le journaliste enquête. Pour ses papiers, il peut enquêter. Alors, il peut enquêter lui aussi sur la prostitution, lui aussi sur le milieu politique, sur de l'affairisme local. Il peut... lui aussi sur le sujet des migrants.
Oui.
Et donc, finalement, il y a plusieurs fils qui semblent être distants au départ et qui finalement se soudent. Et donc, ce qui peut paraître un petit peu écarté au départ finit effectivement par se lier, par se souder, et la corrélation, petit à petit, va apparaître à l'enquêteur.
Et ces rapports entre lui et le propriétaire, donc puisqu'ils ont des rapports, ils sont beaux-frères. Quelles sont leurs relations entre...
Alors leurs relations sont distantes parce que l'un est un garçon, le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, est un garçon. Le maraîcher est quand même bourru, bosseur. L'autre est quand même beaucoup plus délicat, beaucoup plus fin, beaucoup plus intellectuel. Donc bon frère, certes, mais avec beaucoup avec peu d'affinité, quoi. Et donc là aussi, c'est le second était assassiné, le premier est vite mis dans le collimateur des enquêteurs. D'autant qu'un bon matin, on s'aperçoit qu'il a tendance à ne plus être trouvé à l'endroit où il devrait être. Donc voilà, ça fait pas mal de suspicions vis-à-vis de cet homme-là.
Lui, on le trouve décédé à quel endroit?
Alors, journaliste le journaliste dans une boîte de nuit de Catalogne, d'un petit village de Catalogne, une boîte de nuit sur un parking. Le matin, ce sont des jeunes qui rentrent, qui se garent et qui trouvent ce corps qui est effectivement tué lui aussi avec une balle de pistolet, mais avec aussi une main qui est enfoncée avec un pieux. Donc, pour un journaliste, avoir une main abîmée de la sorte, c'est quand même quelque chose qui n'est pas fortuit. Est-ce qu'il a essayé de trop écrire? Est-ce qu'il a essayé de trop en dire? Est-ce que c'était une incitation à la base à se taire? C'est pas impossible. Mais là, je peux
bien
pas
sûr,
tout dire.
Voilà. Bien sûr, à parler jusqu'au bout du livre, c'est ça. Puisque sinon, on révélerait. Voilà. Je voudrais qu'on parle de problèmes d'ordre généraux maintenant, puisqu'on ne peut pas quand même tout dévoiler. C'est difficile. Sinon, au niveau... je trouve qu'il y a eu des aspects poétiques, je l'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Vous avez commencé par de la poésie.
Écrire
de la poésie.
Voilà, alors...
Et on y retrouve, d'ailleurs, on y retrouve dans le style, oui. On retrouve parfois des accents poétiques.
Oui, par exemple, on parlait de Périos tout à l'heure, à un moment donné, je fais dire... Alors, tout est blanc, effectivement, il y a des brebis, même les brebis ont pris la couleur du lieu. Vous voyez, ça, c'est une forme de poésie. La poésie, c'est fabuleux, mais c'est invendable. Donc aujourd'hui, à part Verlaine, à part Rimbaud et Baudelaire, personne n'achète de poésie pour de multiples raisons. Mais j'essaye toujours, même dans un polar,
on retrouve.
Pas beaucoup, mais il faut de temps en temps des petites touches de poésie. Un polar, c'est pas fait que pour avoir du sang. Alors c'est fait, l'émotion est protéiforme. Hein. On peut avoir de l'émotion parce que ça fait peur, on peut avoir de l'émotion aussi parce que c'est beau, parce que la qualité du texte peut correspondre à sa propre sensibilité. Enfin bon, là, l'émotion est protéiforme, et moi j'essaye toujours de mettre une touche de littéraire et poétique, même dans un polar.
Votre carrière professionnelle vous a influencé, dans le, je suppose, dans le, la description, je parle, pas dans la poésie. Dans les
oui, elle m'a aidé. Là où ça m'aide, c'est pour les dialogues, c'est pour un petit peu la procédure. Voilà, tout ça je connais un petit peu. Voilà, quelques réflexes. Après, l'histoire en soi est totalement inventée, mais il y a toujours une part de vrai dans un roman, et il y a toujours un ou deux personnages que j'ai pu rencontrer, ou collègues ou autres, qui, par son côté un peu atypique, ressort, quoi. Il y a toujours, dans un roman, il y a toujours une part de vrai.
Une part de vrai, oui. Il y a une part de fiction et une part de...
De réalité, voilà, de réalité, oui, tout à fait.
Alors, je voulais amener aussi au niveau de l'édition, au départ, parce que maintenant, vous êtes lancé, il n'y a pas de problème. Ça a été difficile de vous faire éditer, ou au niveau des romans policiers, sur j'insiste.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
Ça a été...
Non, pas du tout, parce que alors, le roman... donc, j'ai commencé avec un bon éditeur, Terroir, mais qui fait quasiment du terroir, c'est Deboré. Et puis bon, le terroir a commencé un petit peu à me lasser. J'ai voulu faire du roman policier. Et puis un jour, j'étais au salon de Polar du Sud, à Toulouse, et y a un éditeur, l'éditeur de Kern, donc qui est à Morlaz, qui m'a donné sa carte et qui m'a dit bon, ben si vous voulez un jour frapper à notre porte, pourquoi pas. Donc lorsque je me suis lancé dans un polar qui en plus, était un polar basco-béarnais, donc totalement dans son biotope. Avec le premier, ben, il m'a pris avec grand plaisir. Et puis, bon, c'est une bonne petite maison d'édition qui est sérieuse, honnête. Je m'entends très bien avec eux, et donc j'en ai fait 4, 5 et bientôt 6.
et le titre, vous l'aviez trouvé avant de l'écrire ou pendant
En même temps. Voilà, donc, voilà, l'orange était sanguine, ça c'est moi qui l'ai trouvé. La couverture, évidemment, a été faite par la maison d'édition. Donc je pense que voilà, le titre ne déplaît pas, et la couverture non plus, d'après c'est les premiers échos que j'ai pu avoir.
Est-ce que vous avez un prochain livre, je suppose?
Alors oui, il est fait.
Il est déjà terminé.
Il est déjà terminé. Alors, je peux même vous citer le titre, puisque ça va être, alors pas un polar sérieux, ça va être un polar culinaire, un polar gourmand, où il y aura quelques recettes de cuisine, et ce sera, je dirais dire, une gaudriole, c'est-à-dire liée au milieu du rugby, avec beaucoup d'humour, et un personnage qui va de restaurant en restaurant, du Tarn à l'Ariège, en passant pas par l'Aude et les Landes, essayer de dénouer lui aussi des fils d'une enquête, mais vraiment dans un style tout à fait très très léger. Et alors, comme c'est une pâtissière tarnaise qui se fait assassiner, j'ai osé appeler ça crème et châtiment. Voilà. Pardon que Dostoïevski me pardonne là où il est.
Et au niveau de la lecture, parce que je pense que vous ne lisez pas que des romans policiers, vous lisez de la littérature.
J'en lis beaucoup, mais je lis beaucoup. Et après, oui, il y a des personnages, il y a d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Alors, c'est difficile de tous les citer, mais il y a un auteur qui est du Limousin que j'aime beaucoup, c'est Franck Bouys.
Ah oui.
J'adore Franck Bouys. Un auteur aussi, David Fuenquinos aussi, que j'aime beaucoup.
J'ai hâte de le lire.
Il y a énormément d'auteurs. Après, dans les polars, j'aime beaucoup Jérôme Loubry, dont on parle moins que d'autres. Mais Jérôme Loubry, d'abord, il écrit très bien. L'ancien collègue là, qui était dans les SPJ, Olivier Norek.
Ah oui,
Olivier Norek, voilà, aussi. Puis parfois, il y a des bons petits auteurs qui ne sont pas très, très connus, qu'il faut aller chercher, mais qui laissent, découvrir de belles choses.
Et au niveau de la promotion, vous faites des salons, des dédicaces?
Alors, je fais des salons. Je fais également des Cultura, des signatures en Cultura. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 12. Je vais bientôt être à Sorèze, où il va y avoir un salon du polar, à la fin du mois. Et, et je vais être également à un très très bon petit salon à Sainte-Foy de Pérolière. Voilà, Sainte-Foy de Pérolière, où on va être une bonne vingtaine d'auteurs. On y est toujours très très bien reçu. Il y a du monde. C'est très. Donc voilà, des salons. Et puis le week-end prochain, je serai également à Fronton. Il y a une librairie à Fronton, La Voix des mots. Donc ben, samedi, ce sera Fronton et dimanche, ce sera Sainte-Foy de Pérolière. Voilà, donc c'est important d'être aussi au contact des gens, alors de promouvoir certes le livre, hein, parce qu'il le faut, pas s'en cacher, et d'avoir les retours et d'avoir le lien avec ces libraires qui ne seraient peut-être rien sans les auteurs, mais les auteurs ne seraient rien non plus sans eux.
Bien sûr.
Voilà, donc la réciprocité est totale, il faut collaborer avec eux.
Et est-ce que vous avez certains écrivains ont des rituels d'écriture ? C'est-à-dire ils écrivent la nuit, ils écrivent le jour, ils écrivent une fois par semaine, une fois par jour. Vous avez des petites manies, des tics ?
Naturellement, je suis plus du matin que du soir, donc j'aime bien écrire le matin. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours dans une poche, j'ai toujours un stylo et un papier. Même la nuit, sur le chevet, il est interdit de perdre une idée. Voilà, donc
quand ça vous vient,
voilà, bon, quand ça vient, ou quand les circonstances de la vie, ou quand une parole, ou quand quelque chose j'écoute à la radio me donne à penser que pam, je note de suite. Vous savez, il y avait un auteur qui s'appelait Paul Valéry qui avait dit, qui était donc de Sète, qui avait dit cette phrase, alors qui n'est pas forcément très flatteuse pour un auteur, mais qui est tout à fait vraie. Il disait, c'est en copiant qu'on invente. Mmh. Alors il s'agit pas de faire du copier-coller, de faire du plagiat, mais en copiant, c'est-à-dire d'une idée, l'idée d'un autre va en amener une autre. Voilà. Vous allez la transformer, vous allez la remaxer, la remixer. Et voilà, donc en fait, ça fait boule de neige, et c'est comme ça qu'on part tout autre chose. Voilà. Mais donc, on n'a pas une idée est libre de droit de toute manière, mais il ne faut pas la laisser perdre. Donc, il faut toujours un stylo, toujours écrire, toujours...
Très bien, eh bien, je crois que nous arrivons au terme de notre émission.
Très bien, écoutez,
je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Mais je vous en prie.
Et je rappelle bien sûr le titre de votre dernier livre, L'Orange était sanguine, par Patrick Cojol, aux éditions du Noir au Sud de Kern.
Aux éditions Kern, c'est Kern, ça. Hein,
voilà. Très bien, je vous remercie. J'espère que nous reverrons pour
vous
interviewer pour le prochain livre que vous avez déjà d'ailleurs terminé.
Donc pour Crème et Châtiment.
Crème et Châtiment.
Voilà.
Très bien.
Merci à vous.
Et à très bientôt. Au revoir.
Altitude FM.